C'est la bande originale que j'ai eu la cadeau.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
C'est vous, Nagui ?
Je suis au bout du rouleau. Allez, avec nous, bonjour, Alexis Rossigneur, Tanguy, Pasturo, et notre invité Michel Cibès. Michel,
merci pour votre énième
Michel.
Invitation.
Oh là là,
Michel,
la dernière.
Tu viens toujours.
Michel, toujours vivant.
C'est le vrai.
Il est toujours d'actualité.
C'est le vrai Michel Cymes. J'adore l'idée que vous soyez là, Michel.
C'est vrai.
Sincèrement, ça me fait plaisir.
Ouais. On m'a forcé un peu.
Même pas bête, les cinq sens, une très bonne idée comparaison entre l'homme et l'animal avec Farah Kessri, pardon, que nous recevrons tout à l'heure. Qui a eu l'idée, d'ailleurs,
c'est Michel. Moi.
Non,
on a eu l'idée à deux avec Farah. Farah est chroniqueuse dans le magazine de la santé depuis un bon moment maintenant, et elle s'occupe de tout ce qui concerne les animaux. Elle fait beaucoup d'éthologie notamment, et puis elle nous explique les comportements des animaux. Ça m'a toujours fasciné, et je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. En comparaison, je n'ai pas fini.
Éthologie. Il faut expliquer éthologie.
Le comportement des animaux, ouais. plus que l'anatomie. Mais on a comparé les sens des animaux et des hommes, parce qu'on est toujours un peu fasciné par l'odorat du chien, par la vue de l'aigle, etc.
Il y a des contre-vérités. On vous remettait aussi des choses au point, parce que tout n'est pas dans la rumeur urbaine.
Oui, il y a des merveilles. Alors, on a tout décortiqué. Tout décortiqué, enfin, surtout Farah, parce que c'est elle la veto.
Les cinq sens de tout le monde, c'est ça?
Les cinq sens de tout le monde, et on a tout décortiqué, et on a essayé de voir surtout pourquoi nous, on avait gardé certains sens qu'on avait plus ou moins développés et qu'on avait perdu pour certains, parce qu'ils ne nous servaient plus autant que quand on était dans la brousse. Donc, on a décortiqué, on a expliqué pourquoi l'homme avait moins d'odorat que les animaux, on a expliqué pourquoi nos deux yeux nous permettaient de voir en deux dimensions, alors que les animaux, ils ont parfois des yeux sur les côtés et des yeux devant.
Non, attends, je sais plus, c'est quoi
c'est la menthe.
Non, la coquille Saint-Jacques.
La coquille Saint-Jacques, Nagui,
elle a
200 petits yeux d'un millimètre.
C'est dingue.
Qui lui permettent de voir pratiquement à 360. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ouvre une coquille Saint-Jacques, je la retourne.
Avant les fêtes, ça fait réfléchir.
Je ne veux pas qu'elle me voie, donc je la retourne.
Et la crevette.
Très bien.
Je retourne la coquille Saint-Jacques.
La crevette menthe aussi, qui voit en trois dimensions.
Absolument.
Et je ne connaissais même pas cet animal. Donc,
avec des yeux. Avec des yeux au-dessus de la tête.
Avec un morito.
Avec des yeux au-dessus de la tête qui permettent de bouger dans tous les sens.
C'est fascinant. Parce qu'on apprend plein de trucs. Non seulement il y a ce jeu de comparaison qui est fascinant, mais en plus on découvre plein de choses sur des animaux dont on ignorait, en tout cas personnellement, complètement l'existence, et aussi sur l'homme. J'avais cette certitude que les oreilles poussaient.
Pourtant, je connais rien.
Non, les oreilles ne poussent pas.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'elles
s'allongent.
Oui, elles s'allongent, un peu comme tout.
Alors que les yeux, non.
Les yeux ont leur taille quasiment définitive. Ils ont leur taille quasiment définitive à la naissance. Voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que les bébés, on se dit qu'ils ont des yeux immenses.
Ouais.
Et en fait, le globe oculaire, lui, ne va pas beaucoup grandir. Et les oreilles non plus. Mais comme il y a un relâchement musculaire et des ligaments, tout ce qui retient finalement, mais c'est valable pour le visage et pour tout le reste. Ça se casse un peu la figure, Daniel.
M'en parle
pas. Est-ce qu'on est capable de savoir si la coquille Saint-Jacques voit bien?
On leur a posé la question.
Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir moins
d'yeux
et avoir des pattes?
Alors le problème de la coquille Saint-Jacques, elle a plein d'yeux pour voir voir pratiquement tout autour d'elle, pour voir des prédateurs. Et comme ça, dès qu'il y a un prédateur, elle se referme.
Elle ne va pas partir.
C'est malin, c'est bien
bon,
fait.
On va parler.
Vous me testez pour voir si j'ai lu le livre.
Un peu.
En tout cas, nous l'avons lu.
Ouais.
Nous l'avons lu.
Parce que vous avez prêté votre nom.
Oui, seulement.
Et nous on l'a lu.
Même pas bête, les cinq sens, c'est chez Glénat. Mais d'abord.
Quoi?
Des questions
sur Mimi.
La
dernière fois que Michel Cymes est venu dans cette émission, il avait avoué sa passion pour la cuisine. À vous de découvrir une nouvelle passion de Michel Cymes.
Le vin, l'huile d'olive, les vacances.
Non, c'est gustatif.
Le sport.
C'est une passion, et on en parle souvent dans cette émission.
L'amour à plusieurs.
Nos invités, oui. Mais
l'antiquaire.
Oui, exactement.
La
brocante.
Ah oui, j'adore faire les brocantes. Moi, l'été, par exemple, dans le sud de la France, j'achète le petit guide des brocantes du sud de la France et je vais me balader. Même, j'ai rien à acheter.
Mais est-ce que j'allais dire, vous achetez ou vous...
Non, parfois, je tombe sur un truc qui me plaît, mais moi... Non,
tu voles des fois, tu voles.
Oui, je vole plus que... On m'offre.
Ah, c'est ce que tu dis à la police.
Je dis, vous me reconnaissez, donnez-le-moi. Mais non, l'idée, c'est d'avoir... moi, j'adore la récup et la transformation des vieux trucs. pour une fonction qui n'a rien à voir avec.
Un détournement d'objet.
Je détourne la fonction des objets pour faire, par exemple, je vais prendre une grande planche et je vais en faire une suspension avec des ampoules.
Mais chez vous, c'est plein de briques et de brocs, c'est quoi?
Chez moi, sur mon corps, vous voulez dire?
Non,
chez moi, non, c'est pas.
Le danger.
Cette tête, c'est vous qui l'avez fait.
Je l'ai acheté aussi.
Non, mais le danger des brocantes, c'est d'avoir plein de trucs après la maison.
Non. Je n'achète jamais rien qui ne peut pas me servir. J'ai toujours une idée précise de ce que je peux faire de l'objet que j'achète. Puis j'adore bricoler, donc c'est voilà.
Il sait tout.
Quel est le point commun entre Michel Simès, Georges Miller, Francis Weber, Albert Dupontel, Adriana Carambeu?
Les jambes.
Même jour.
Non. Ils en ont deux chacun.
Non.
Et qu'Adriana Carambeu.
Albert Dupontel.
Ouais. Ils aiment la vie.
Francis Weber, Georges Miller.
Dupontel.
Ils sont tous des hommes.
Adriana Carambeu. Point commun.
Ils ont reçu une Légion d'honneur à Truc.
Ils ont tous commencé.
Ils sont tous docteurs.
Ouais, voilà.
Ils ont tous fait des études de médecine.
Ah, c'est Alexis.
Pourquoi? Parce que tu m'aimes pas.
Oui, exactement.
C'est juste parce que pour une fois,
je voulais une bonne raison.
Ils ont tous commencé des études de médecine.
Les gens pensent tous que je suis médecin. C'est ça qui me fascine.
Moi, j'avais capté que vous l'étiez pas.
Oui, ils ont tous commencé. Et Adriana, qui est celle que je connais le mieux parmi vous.
Ça, je savais pas.
Elle a fait 3 années de médecine. Elle a été repérée dans la rue à Prague par, je sais plus comment ils appellent ça.
Un médecin. Scout.
Chercheur. Vous serez médecin.
Qui l'a remarqué, elle est devenue mannequin alors qu'elle avait fait 3 années de médecine. D'ailleurs, elle me le rappelle très souvent pendant les tournages des Pouvoirs extraordinaires du corps humain, en me disant, écoute, arrête de m'expliquer tout, parce que j'ai fait 3 années de médecine.
Albert Dupontel, je ne savais pas, Francis Weber.
Non, non plus, franchement.
Non, mais ils ont fait quoi, une année
Je ne sais pas, mais alors, vous, c'était une...
Non.
Vous le dites en ouverture du livre. Non, vous dites que vous vouliez être veto, et que les études étaient trop compliquées.
Non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, j'ai une amie de mes parents, quand j'ai dit que je voulais faire veto, qui m'a dit « Oulala, fais pas veto, c'est trop compliqué, fais médecine ». Parce que la première année de veto est très très difficile aussi, il y a un concours.
C'est aussi long.
Et c'est 6 ans, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'en ai fait 11. Mais c'est
donc 5 de prison.
La première année est très difficile en veto. Puis je vais vous dire, c'était pas non plus une vocation. J'aimais bien les animaux. Je me suis dit tiens, je vais faire veto. En fait, je voulais faire quelque chose de scientifique et médecine. Médecine me convient très bien.
Qui est Vincent?
Ça me permet de soigner Daniel.
Qui est Vincent Lazare?
Proche du veto.
C'est un pseudo.
Non.
Vincent Lazare, c'est pas un copain d'école avec qui
c'est le vrai nom de Michel Simès.
Pas loin.
Un cousin.
C'est son pseudo quand il écrivait des.
Pas loin non plus.
C'est un nom qu'il a donné à un héros.
Oui.
Qu'il a écrit.
Non.
C'est son personnage en télé, non? Quand il incarne. Ouais, oui.
Elle est très forte, là. Très forte, effectivement.
Enfin, je l'ai bien aidé, là, quand même.
Oui, enfin, j'ai commencé par un pseudo.
Ah, ouais, ça va.
Non, j'ai pas besoin de toi, franchement.
Exactement. Parce que si Alexis n'était pas là, on n'y arriverait pas.
Alors, ça, c'est votre. Pas nouvelle passion, mais c'est vraiment.
C'est un hobby plus qu'autre chose.
Non, sincèrement, vous aimez ça.
Oui, j'ai adoré.
Autant que la médecine.
Effectivement, Vincent Lazare, c'est le nom du héros que j'incarne dans
Meurtre en Pays d'Oléron.
Voilà. Je me suis régalé. J'étais d'abord c'est Thierry Benisti qui est hyper bienveillant qui réalisait. J'ai tourné avec notamment Hélène Cesaret et j'ai passé 3 semaines de tournage absolument extraordinaires parce que toute ma vie, je me suis dit tiens, un jour j'essaierai bien. Et en fait, moi, mon moteur dans la vie, c'est ça, c'est de me dire tiens, j'essaierai bien un truc. Je l'ai essayé. Bon, ça a cartonné en audience. Franchement, je suis pas passé à côté du rôle. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu être meilleur. Et là, on m'en propose un deuxième. Et franchement, c'est pour moi un amusement. Après, qu'est-ce que je ferai dans 2-3 ans? J'en sais rien.
Mais toujours le souci de rester docteur.
Jusqu'à maintenant, oui. Parce que je consulte à l'hôpital et que je veux pas que les gens, quand ils me voient à l'hosto, ceux qui m'ont vu comme proxénète la veille, ils se demandent si le diagnostic que je suis en train de faire, ils peuvent se demander si je suis vraiment compétent.
En revanche, le jour où vous arrêterez de consulter, vous pourrez être proxénète.
Je vais même le faire avant parce que le prochain rôle que je vais jouer, c'est un rôle de vétérinaire, ce qui est quand même fou. On me propose un rôle de veto.
On reste
scientifique.
Ouais, voilà.
On reste scientifique et je serai en binôme avec un médecin.
Blouse blanche.
Bon,
okay.
Mais après, je sais pas. En plus, vous savez, jouer le rôle d'un médecin.
D'un homme d'affaires, d'un tueur en série.
Jouer le rôle de ma vie, que je joue dans la vie, dans une fiction, c'est pas un rôle de composition. Ça nécessite, à mon avis, moins de talent d'acteur. Mais si je joue un rôle de composition, on passe à autre chose.
Vous avez pas peur que ce soit l'inverse, que le fait de jouer un docteur en fiction pollue justement votre rôle de médecin?
Ouais.
Non.
On pourrait se dire ça.
Ouais.
On pourrait se dire, oui, ça déteint.
Non,
quoi.
Non, pas du tout.
Ça enlève le mérite du comédien.
Oui, mais bien sûr que ça enlève le mérite. C'est pour ça que je voulais le faire aussi. Je ne savais pas si je savais jouer. Donc je me suis dit au moins les gestes.
Mais maintenant que c'est fait. Pourquoi pas passer à autre chose?
Non, mais c'est pas parce que j'ai joué un rôle et que ça s'est plutôt bien passé que je sais jouer. Est-ce que demain je vais être capable de jouer un vétérinaire de façon crédible? Est-ce que je serai capable de jouer un policier n'importe quoi? Je ne sais pas.
Est-ce que vous prenez des cours?
J'ai jamais pris de cours de ma vie à part médecine.
Ouais.
Et j'ai du mal. Je vous assure que j'ai tellement donné en cours pendant mes études que je n'en peux plus. Dès que vous me parlez leçon, j'ai un peu du mal à part la musique. Mais
et la mémoire, et retenir les textes.
Et la mémoire, c'est un problème. C'est ce qui me fait peur parce qu'on m'a proposé de jouer au théâtre. De jouer. Autant au cinéma ou en téléfilm, vous pouvez refaire les scènes, autant
oui,
au théâtre...
Oui, puis on apprend séquence par séquence.
Ouais, et puis je suis un grand traqueur en plus, et au théâtre, je dis pas que je le ferai pas, parce que je suis en train d'écrire une pièce avec des potes, mais...
Mais vous arrêtez pas, mais c'est pas possible.
C'est vous qui me dites ça.
Moi, je joue pas au théâtre, je peux quand même.
Voilà, si on a besoin, on est tous les deux hyperactifs, on a besoin de bosser, on est passionnés par ce qu'on fait, et voilà, moi j'ai envie d'écrire une pièce depuis longtemps, on l'écrit avec des potes, si ça marche et qu'on nous la prend, qu'un producteur nous la produit, est-ce que je jouerai un rôle? C'est possible. J'ai commencé en l'écrivant, en me disant, tiens, je jouerai bien ce personnage-là, et puis je me suis détaché parce que c'est compliqué d'écrire une pièce.
Il n'est pas docteur encore.
Si.
Oh non. Ah.
Non, mais là, c'est autre chose. Oui, on est docteur, mais c'est une pièce dans laquelle vous allez voir le côté backstage de la médecine, c'est-à-dire tout ce que les médecins peuvent raconter entre eux d'horrible sur les patients.
Ah, c'est dégueulasse.
Quoi, salle de garde un peu?
Non, mais le côté, les médecins parlent entre eux des patients, pas toujours avec bienveillance, parfois les patients les emmerdent, donc ils se racontent ça entre eux, alors que face aux patients, bien évidemment, il y a toujours de la bienveillance.
C'est drôle.
Et c'est drôle, et c'est, voilà, il y a un peu de tout.
D'accord. C'est comme les animateurs avant de recevoir les invités.
Je vous entends pas, monsieur. Pourquoi Michel Cimette, pour quelle raison a-t-il un jour porté un costume rouge?
Pour les clowns?
Ça...
Un pari?
En Père Noël?
Alors, non, ni clown, ni Père Noël, ni Paris.
En tout cas, c'est osé le rouge.
On s'est moqué de lui, on lui a dit que c'était
une rascale. On n'est pas loin du pari, on n'est pas loin de l'obligation ou du...
C'était pour une œuvre caritative?
Ou du TEPACAP.
Pratiquement, oui.
Non, arrête, non, c'est pas caritatif.
Une soirée Balkany?
C'était une soirée, en tout cas.
Soirée boucherie.
Une soirée un peu importante où il y avait un dress code et il a pas respecté le dress code pour faire chier.
C'était le dress code de tout le monde.
C'est lui qui a choisi ce dress code. Pourquoi?
Ah d'accord. Les chaperons rouges.
Et non mais à quelle occasion surtout? C'est une occasion.
Un mariage.
Exactement.
Le sien.
Exactement.
Absolument. En fait, on avait demandé à nos invités de s'habiller en noir et blanc avec une touche de rouge. Et nous sommes arrivés avec ma femme rouge.
Ce qui est pas légal.
Elle aussi.
C'est-à-dire les femmes. Non, c'est pas légal. Enfin, la tradition veut que
tu vas à la prison.
Les femmes, exactement. Tu peux aller en prison. Les femmes invitées à un mariage ne s'habillent pas en blanc. C'est la mariée en blanc. Point.
Ouais, ben on a changé le truc. C'était noir et blanc, comme il voulait, avec une touche de rouge.
Génial.
Et nous, on a fait rouge avec une touche de noir.
D'accord.
Tous les deux, et on est arrivés comme ça.
Et rouge.
Et rouge pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que ça nous plaisait d'être différent, d'être bien vu quand on arrivait. Pour se distinguer.
Non, je croyais que c'était la couleur du bonheur en
Chine.
Les Chinois,
Oui, c'est possible, mais j'ai rien à voir avec la Chine. Et donc, c'était une couleur qu'on trouvait drôle. Et effectivement, j'ai pris un couleur. J'ai trouvé un costume rouge et c'était assez.
J'ai pas le droit.
Vous l'avez acheté où le costume?
Stalingrad. Je sais pas, mais j'ai eu du mal à le trouver.
C'est vrai que c'est le fringues.
J'ai eu du mal à le trouver, en tout cas.
En tant qu'interne, quelle situation dérangeante a-t-il vécu avec une patiente?
Il était nu.
Parce qu'il l'a trouvé
ouais,
très belle.
Ah non, c'est elle. Enfin bon, allez, un point pour moi. Ouais. Elle s'est déshabillée.
Je sais pas où vous allez chercher tout ça. Effectivement, je suis
au commissariat.
Je suis ORL, donc théoriquement, j'examine le nez, les gorges, la gorge et les oreilles, donc on n'a pas besoin de se déshabiller. Ouais. Et cette patiente, qui manifestement espérait autre chose, s'est mise torse nu, sans soutien-gorge, dans le box à l'hôpital, box dans lequel les infirmières peuvent rentrer à tout moment. Ah. Et donc, j'étais un peu d'abord surpris, je lui ai dit, mais vous savez, elle me dit, si, mais comme ça, vous allez pouvoir m'écouter les poumons. Je n'écoute pas les poumons en ORL, si vous voulez.
Allô
et donc, je lui ai demandé de se rhabiller vite en me disant, si jamais l'infirmière rentre, surveillante
vous
ou
étiez interne.
Ouais. Et j'étais, ouais, je veux commencer un truc. Donc c'était un peu.
Un peu délicat.
Ouais. Quoi qu'il arrive, Michel,
vous ne voulez pas arrêter la médecine. Vous ne voulez pas arrêter de pratiquer. Vous ne voulez pas arrêter de recevoir des patients et à l'hôpital, c'est-à-dire à quelques euros. Vous ne voulez pas être spécialiste à 300 euros la
consultation. Non, je ne veux pas arrêter, mais c'est l'hôpital qui va m'arrêter parce que j'ai 62 ans et qu'à 65 ans, c'est la retraite. Donc,
enfin une bonne nouvelle.
Ouais, dans deux ans et demi.
Attention à l'âge pivot. Hein.
Dans deux ans et demi, je suis obligé d'arrêter, mais non, je veux pas.
Obligé. Bah,
obligé, ouais.
Bah ouais, parce que sauf si je demande une dérogation.
Après, vous pouvez devenir médecin de campagne jusqu'à 95.
Je peux devenir médecin surtout. mais je veux pas arrêter parce que.
Et avoir votre cabinet, être ORL privé entre guillemets.
Non, parce que je fais beaucoup de trucs à côté qui me passionnent aussi.
Oui, mais vous voulez toujours continuer la médecine.
Oui, je continuerai. Vous savez, je suis ORL à la chaîne de l'espoir, l'organisation humanitaire pour les enfants. Je continuerai à exercer différemment en partant en mission pour la chaîne de l'espoir. Mais je ne veux plus exercer. On peut pas exercer dans un cabinet comme ça en étant là. L'hôpital, j'arrive le matin, je fais mes consultations, je peux repartir après. J'opère plus. Je peux pas. Il faut être très disponible pour avoir un cabinet, être disponible tout le temps.
Puis un rôle de violeur en série qui arrive et puis là il a peur avec les clients.
C'est ça. Parlons donc chez Glénat Jeunesse de Même pas bête avec beaucoup de dessins. Faut le préciser quand même. On a parlé évidemment de Farah Kessri qui sera avec nous tout à l'heure. Michel Simès et elle ont coécrit ce livre, mais Amélie Fallière en signe tous les dessins. Tous les sens sont abordés. Évidemment le toucher et notamment, et c'est ça qui est aussi original, de rapprocher dauphin et pieuvre, parce que l'un touche avec tout son corps, ce qui est le cas du dauphin, l'autre évidemment avec ses tentacules. Là, on peut, j'ai envie de dire, ils peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire que le dauphin n'a pas de bras, n'a pas de doigts. Vous dites c'est l'évolution de la nature qui font que les sens se sont développés dans tel ou tel sens.
Oui,
c'est l'inverse.
Oui,
et se contentent de ce qu'ils ont.
Bah, il a pas d'odorat, mais il en a.
Non, ils ont développé ce qui leur sert le plus. Effectivement, la pieuvre a besoin de toucher avec ses tentacules. Elle a des récepteurs tactiles sur toutes ses tentacules. Effectivement, comme vous dites, le dauphin n'a pas le bras, mais on a nous aussi développé des récepteurs du toucher qui sont très importants. On a des milliers et des milliers de récepteurs, notamment sur la pulpe des doigts. On a eu
800 000 capteurs.
Voilà. Et on a eu des adaptations en fonction de nos besoins. Il est bien évident que dans la vie quotidienne, ce qui vous sert le plus, c'est la pulpe des doigts. C'est ça qui vous permet de toucher, de savoir si ce que vous touchez est rugueux. On a des récepteurs sous forme de disques dans la partie superficielle de la peau. En profondeur, on en a d'autres qui donnent une autre information sur ce qu'on est en train de toucher. Oui. Et surtout, et on prend souvent l'exemple des aveugles, on a une adaptation même au sein de l'espèce humaine en fonction des besoins. Si vous êtes aveugle, vous développez les récepteurs de la pulpe des doigts pour pouvoir lire le braille.
Et l'ouïe.
Et l'ouïe aussi. Et tout ça se développe à l'intérieur du cerveau, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité.
Ça veut dire que si on n'est plus à même d'utiliser un sens, il pourrait disparaître. Le coup des dauphins, ça m'a étonné. C'est-à-dire qu'ils étaient doués d'odorat, ils ne le sont plus
Avec l'évolution, parce qu'ils sont rentrés dans le... Il n'y a pas beaucoup...
Dans l'eau. Bah si, le saumon peut sentir... Il y a plein de
poissons.
Il y a plein de poissons.
Il y a le poisson qui peut sentir, il y a aussi un autre animal.
Il y a le poisson qui pue aussi.
Il y a un autre animal.
Le requin.
Et ça sent un poisson pour le coup.
Oui, ça sent. On dit que les saumons sentent la rivière dans laquelle ils sont pour pouvoir la retrouver. Il y a un mammifère qui, lui, fait quelque chose de très... Alors, je ne sais plus le nom en tête, mais qui fait quelque chose de très spécial, c'est qu'il va balancer des bulles d'air pour emprisonner l'odeur de la proie. Et comme ça, grâce à l'air, comme il ne peut pas respirer, il ne peut pas trouver
c'est pas la musaraigne d'eau.
La musaraigne d'eau, voilà. Ouais. Il peut pas respirer des odeurs dans l'eau.
Heureusement que Farah est là.
Donc il va emprisonner dans des bulles d'air l'odeur et il va ensuite pouvoir la sentir et savoir qu'il y a sa proie.
Mmh. Ouais, c'est fascinant.
Qu'est-ce qui t'a plu, Albert, dans le livre?
Ah ben c'est la relativisation de notre prétendue supériorité dans beaucoup de domaines, quoi. On s'aperçoit que, par exemple, la libellule qui vole à 70 km heure dans les airs, c'est absolument stupéfiant quand on voit une libellule toute petite.
Ce qui est stupéfiant, non seulement c'est la vitesse à laquelle elle vole, mais c'est surtout le fait qu'elle voit, on explique aussi, on fait une comparaison avec l'homme, vous marchez, vous avez une vue à 180, même beaucoup plus, sans aucun problème. Et plus vous accélérez, c'est le cas en voiture notamment, plus vous rétrécissez votre champ visuel. On ne peut pas, à une certaine vitesse, voir aussi bien que quand on marche.
On est à l'arrêt.
La libellule, à 70 km/h, elle vous voit très très bien. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que les insectes, vous avez du mal à les attraper, parce qu'ils sont très forts, ils ont des sens qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite que nous, dans la perception d'un bruit, d'un danger, etc. Et essayez de choper un moustique sans le taper.
Vous êtes proche de quel animal? Vous vous sentez le plus proche de quel animal?
Le phoque à capuchon.
Le phoque à capuchon, c'est celui qui a le truc qui sort du nez.
Pour montrer qu'il est excité, qu'il y a une sorte de turgescence avec une poche qu'il a sous le nez.
Je me sens proche du bonobo.
Ou l'escargot, parce que vous bavez.
Le bonobo.
L'escargot est sourd, c'est quoi cette histoire?
Non seulement il est sourd, mais il est aveugle. Et c'est pour ça qu'il a ses petites tentacules. C'est-à-dire que vous mettez à côté d'un escargot, vous tapez dans les mains, il s'en fout complètement. Mais en revanche...
En même temps, c'est rare qu'on fasse ça.
Fait pas ça.
En revanche, avec les petites tentacules, les petites antennes qui sont en bas, il va toucher, palper le sol, et c'est là où il va sentir s'il y a un danger ou pas.
On est proche du cochon aussi pour les papilles. Hein. Il est un peu supérieur à nous, il y en a 15.
Le cochon a beaucoup de goût.
Oui.
Beaucoup. Il bouffe n'importe quoi, mais il a effectivement des papilles gustatives très développées.
Ça s'appelle même pas bête, c'est passionnant. On apprend des tonnes de trucs, et pas que sur les animaux, sur nous aussi. Ces comparaisons fonctionnent extrêmement bien. On va continuer d'en parler, mais d'abord des révélations, messieurs, dames. Ah. Faites pas, oui. François.
Ah bon. Salut! Salut les amis, salut Nagui et coucou Michel. Oui. Vous le savez Nagui, d'habitude, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Et j'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une vieille chatte. C'est dire si j'ai kiffé, même pas bête, livre où j'ai appris des tas de choses, on vient de le dire, passionnantes sur mes animaux avec lesquels j'ai beaucoup de points communs. À force de vivre la nuit, notamment sur le dance floor des sous-sols du Banana, je suis presque devenu nyctalope. Je vois dans le noir comme ma chatte Bérange. Jeu de mots facile. Non, elle s'appelle Françoise. C'est son nom. François. Mais bien sûr, en lisant Même pas bête, j'ai appris des tas de trucs formidables sur ce qui me rapproche ou me différencie de plein d'autres animaux d'un point de vue sensoriel et anatomique. Ma langue, avec toutes ses papilles, ne pèse que 50 grammes, alors que celle de la baleine pèse 4 tonnes. Je te dis pas le maelstrom quand ses cétacés se roulent des pelles ou quand ils doivent la tourner 7 fois dans leur grande bouche. À la page 34, j'ai aussi appris que, je cite, chez les nazis, plus le nez est imposant, plus les testicules sont gros. Certes, Michel, tu précises, chez les humains, il n'y a aucune relation entre la taille du nez et la grosseur des testicules. Mais à ce propos, je voulais juste savoir si, Daniel Morin, cette particularité se rencontrait seulement chez les hommes d'origine égyptienne. Bref, outre ses qualités pédagogiques, même pas bête, en comparant la spécificité des cinq sens chez l'homme et chez toutes les espèces animales, nous rappelle que l'homme n'est pas une finalité de l'évolution, mais bien une branche parmi d'autres de cette évolution, ce qui nous amène à relativiser la supposée supériorité des hommes sur les animaux. Waouh, ça c'est tapé. Leïla me disait d'ailleurs tout à l'heure, François, vous êtes d'une rigueur scientifique digne des travaux des plus éminents éthologues. Franchement, ça me change du vol intellectuel de Mathieu Vidard dans La Terre au carré. Et Nagui d'enchaîner, le Vidard vivement qu'il soit vidé. Voilà, cher Michel, mais vous le savez déjà, médisance, malfaisance et répugnance sont les mamelles de la bande originale. Bonne émission quand même.
Merci Albert, allez-vous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Avec ce livre, Même pas bête, l'idée était de s'amuser et d'éduquer les enfants.
Oui.
Mais ça s'adresse quand même à un public aussi très large. On a été aussi accrochés.
Bien sûr, c'est un livre, d'ailleurs c'est ce qui se passe en ce moment, les gens les achètent pour les enfants mais ils lisent tous en famille.
Clairement.
C'est pour les 7-12 ans, mais très franchement, vous le dites, vous avez appris plein de choses. Moi j'ai appris énormément de choses sur les animaux en travaillant avec Farah Kessri. C'est toute la famille, c'est typiquement le genre de livre, c'est toujours sympa d'avoir un livre à lire en famille.
Ensemble.
Parce que souvent, ouais. Les livres pour enfants, c'est un peu quand votre gamin vous dit « Tiens, tu veux pas lire avec moi ?» Vous endormez avant lui. Mais là, vous apprenez en même temps.
Alors, autant il y a des organes qui se développent en fonction des besoins de la nature, de l'environnement, et ce qu'on disait tout à l'heure sur le toucher, l'odorat, les yeux. Il y a des yeux, je sais plus quel animal, de 27, les plus gros yeux, c'est le calmar, c'est ça, 27,
c'est ça,
pratiquement 30 centimètres.
C'est comme si on avait un ballon de basket.
C'est la mouche qui a les plus gros yeux, non, c'est ça, la mouche
qui a le plus de facettes.
Non, c'est des visions à facettes. C'est pour ça qu'il voit, très très bien, mais il voit moins bien que nous, mais il voit beaucoup plus autour. Mais ils réagissent beaucoup plus vite. En fait, il y a des animaux ou des insectes, par exemple, qui ont une. Par principe, quand vous revoyez quelque chose, ça rentre dans la rétine, le nerf optique, ça va dans le cerveau,
ça
qui doit analyser, etc. Ça met un certain temps. Enfin, c'est rapide, mais ça met un certain temps. Ça va plus vite chez les insectes.
D'accord.
Et c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le temps que vous disiez tiens je vais choper l'insecte, lui il s'est barré parce qu'il a compris, il a vu beaucoup plus vite, il a analysé la situation beaucoup plus rapidement.
Est-ce que justement le comportement des animaux c'est pour éviter d'être tué, éviter les prédateurs, généralement l'évolution c'est pour se nourrir et éviter d'être tué.
Et d'ailleurs vous en avez un très bon exemple avec l'emplacement des yeux. C'est un truc que j'ai appris et qui m'a fasciné. Je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi il y avait des animaux qui avaient des yeux devant et d'autres sur les côtés. Quand vous regardez, vous analysez, Farah m'a expliqué que c'était les proies qui avaient les yeux sur le côté pour pouvoir bien voir l'environnement et éviter le danger, alors que les prédateurs ont les yeux devant. Et donc, nous sommes des prédateurs.
D'accord.
Et c'est comme la sole avec son œil qui se déplace.
C'est le turbo. Qui a un œil. En fait, quand le turbo est petit, les yeux sont placés de chaque côté. Mais comme il va s'aplatir progressivement, les yeux vont migrer pour se retrouver aussi.
Il y a Jean-Paul Sartre qui avait ça.
Il est prédateur et proie.
Qui?
Le turbo.
Jean-Paul Sartre.
Oui, alors on peut pas non plus généraliser. Il y a quand même des exceptions qui font qu'il y a des prédateurs qui ont les yeux sur le côté et des proies qui ont les yeux devant.
D'accord.
Non, mais c'est passionnant. C'est chez Glénat Jeunesse. Voici l'autre prédateur, Alexis Le Rossignol. Tueur en série.
Bonjour, ça va bien,
Alex. Oui,
bien, super.
Vous aimez jouer au Scrabble?
Oui.
Au Scrabble autour de la table.
On aime jouer.
Est-ce que vous connaissez Nigel Richards?
No.
Non.
Eh ben, c'est dommage parce que c'est un génie. C'est le nouveau champion du monde de Scrabble en français. Si vous le frottez, il trouve des mots que personne n'utilise, sauf Edouard Baird. Nigel Richards, c'est un gars, il pioche un W, un M et un K et il fait cool, j'ai Wakame. Alors que toi, tu te cherches discrètement sur ton portable si WEM, ça existe, tout en disant je triche pas, je réponds à un SMS. Alors, pour info, le Wakame, c'est une algue comestible dans la cuisine japonaise. Vous savez, les petites algues vertes, là. Voilà. Moi, au début, je les jetais. Je pensais que c'était de la déco, moi.
Super bon.
Sous les huîtres. Voilà. Ben non, ça se mange. Et au Scrabble, c'est 25 points. Non placé. Parce que si tu mets ça sur un mot qu'on double, c'est 50 points minimum.
Oui, merci.
Ah, j'explique pas les règles du jeu. Hein.
Non, non.
Alors après, si tu places Wakame, je vais le faire quand même, sur un mot qu'on triple, avec W sur une lettre qu'on double, là c'est la fête du slip, 105 points d'un coup, félicitations du jury, remise d'une médaille par Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt. Vous savez, c'est les parents de Laurent Romeshko. Dans les chiffres et les lettres.
Oui, c'est vrai.
Alors pourquoi je vous parle de Nigel Richards?
Parce
qu'il est pas français.
T'as dit français tout à l'heure.
Non, c'est le champion du monde de Scrabble francophone, mais il parle pas français.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est fort. Hein. Le gars, il sait pas commander un pâté en croûte chez le charcutier, mais il est champion du monde de Scrabble en français. Moi, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas être le meilleur au Scrabble dans une langue que tu connais pas. Si, en fait, parce que quand on y réfléchit, c'est quoi le Scrabble? C'est un jeu qui consiste à placer des mots du dictionnaire ou des verbes conjugués sur un plateau, mais t'es pas obligé de savoir ce que ça veut dire pour jouer. Comme la pétanque d'ailleurs, t'es pas obligé de parler français pour y jouer. Si tu tiens l'alcool, c'est déjà pas mal. Tu vois. Alors Nigel Richards, il a appris par cœur le petit Larousse en 6 mois.
Punaise.
Lui, il place le verbe flatuler entre deux mots contre triple et bim, 158 points d'un coup. Et toi, t'es là, j'ai un S, ça existe flatuler au pluriel? Non. Oh, c'est con, même si on a mangé la même chose.
Bon.
D'ailleurs, nous-mêmes, les francophones, on connaît rarement les mots qui payent bien au Scrabble. Un tomahawk, vous savez ce que c'est?
Ah oui.
C'est une hache de guerre indienne, voilà. D'où le célèbre dicton Sioux, quand tu enterres le tomahawk, pense à bien reboucher le trou avec la pelawak.
Non, c'est pas possible.
C'est la fin de la saison.
Solitude.
Et un dayton, vous savez ce que c'est?
C'est la fin de l'année, pas la saison.
J'ai la finir quand même.
Parce qu'il est filmé.
Il y a des gens ici, non, personne. Un dayton, vous savez ce que c'est?
Un quoi?
Un dayton.
Ouais, c'est un animal.
C'est un radis qu'on utilise dans la cuisine japonaise.
Okay.
Voilà. En fait, pour être bon au Scrabble, faut aimer les Indiens et les sushis. Voilà. Et puis le Scrabble, il y a rien qui marche aujourd'hui.
Bizarre, ça.
Mais si.
Ce jour, il fallait que ça marche.
T'inquiète pas, je suis médecin.
Non, mais j'en ai vu d'autres.
Là, faut t'exorciser.
Et puis le Scrabble, c'est pas que placer des mots qui rapportent. Le Scrabble, c'est surtout de la stratégie, parce qu'il faut trouver des mots et bien les placer, mais aussi empêcher les autres de le faire.
Et oui.
Et j'avais écrit et oui en plus. Faut empêcher les autres de profiter des mots qu'on double et des mots qu'on triple.
On oublie ça souvent.
Et non. Pourquoi à la fin Tata Janine elle gagne la partie avec bonbon sur un mot qu'on triple? Parce que toi t'as vu oncle sur la table et que pendant trois tours t'as juste rajouté des S à des mots déjà placés en attendant de piocher un F, un U et un R pour faire furoncle. Tu t'es dit furoncle. Ça fait 8 lettres.
Mais
c'est un mot scientifique. La preuve, parfois Michel Simès il en parle à la télé. Parfois même il les montre quand il en a sur lui. Donc ça doit rapporter. Mais en fait non, ça fait 20 points. 20 petits points. Et là tu te dis, c'est con, si j'avais gardé un S, j'aurais fait mes mots compte double. Voilà.
Bonne journée, monsieur.
J'ai réussi. La bande originale.
Elle est vraiment écrite.
Je sais.
C'est au point virgule aussi, il faut toujours le dire, le jeudi, vendredi, samedi à 19h.
Je reprends les chroniques.
Très bien. On vient d'apprendre il y a 10 secondes qu'il n'y était plus.
La musique dans la vie de Michel Simès. On va commencer en 74. Michel, vous écoutiez.
Le premier pas.
Ah, c'est beau. Claude-Michel Schoenberg.
J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais. Cela ne se fait pas.
Cette musique vous rappelle quoi?
Cette musique me rappelle, j'avais 16-17 ans, et elle me rappelle que j'habitais dans le 18e à Paris, et puis je voyais tous les matins une jeune fille qui me plaisait beaucoup, qui allait promener son chien. Et comme j'étais très très timide, je n'ai jamais osé l'aborder.
Non, c'est pas crédible, Michel.
Non, mais ça va, je me suis rattrapé après, mais.
Vous
commencez à aborder le chien. Et donc cette chanson correspondait parfaitement à ce que je ressentais en voyant cette fille, en me disant, il faut qu'elle fasse le premier pas. Et je trouvais cette chanson absolument magnifique. J'ai jamais dragué la fille, je sais pas ce qu'elle
le
est
chien.
Devenue.
Ah oui, non, mais j'attendais la chute.
Avec... Non, il n'y a pas de chute.
Depuis, nous sommes mariés.
Non, pas du tout.
C'est pas retrouvé habillé en rouge.
J'ai pendant des mois, je regardais truc. Je me disais, tiens, je vais descendre, je vais lui proposer de promener son chien avec elle, parce que c'est con. Et j'ai jamais fait. Voilà. Je suis passé à côté de.
Ouais.
Mais c'est bon, c'est pas grave, je suis heureux.
74.
Non. 74, c'est aussi un début d'histoire d'amour, quelque part, avec
oui,
le PSG.
C'est la montée du PSG en première division. PSG Valenciennes au Parc des Princes avec le malaise de Juste Fontaine.
Vous blaguez, là, vous parlez d'histoire d'amour avec le PSG?
C'est-à-dire que je suis toujours abonné au PSG. Ça fait, depuis 74. Donc,
quels que soient les résultats, oui.
Quels que soient les résultats, j'ai été, à l'époque, j'étais pas abonné, j'avais pas l'argent, donc, je prenais un billet en tribune, je faisais semblant d'être photographe de presse et puis j'allais me retrouver dans la tribune de presse, j'ai fait tous les...
Mais comment vous êtes tombé dedans? Parce que c'est ça, à un moment, match, on devient fou et...
Non, j'ai toujours été passionné par le foot, j'ai joué au Red Star, c'était le club parisien, j'ai supporté le PSG.
Et alors, quelle a été la meilleure saison pour vous?
Ah, c'est pas une question de saison, c'est des joueurs surtout qui me fascinaient. Okay, Ginola était pour moi un des plus grands joueurs du PSG. Weah, Rai, tous ces mecs-là, c'est plus les joueurs.
On est dans les années 90. Ouais.
Plus les joueurs que les pères. Alors quand on a gagné la Coupe des Coupes, bien évidemment. Coupes, ouais. Et puis un jour, 93. Quand j'étais à Télématin et j'arrivais à vendre des reportages pour aller en disant je vais pouvoir aller sur le terrain, et j'étais pour le fameux PSG Real quand Comboiré marque de la tête à dernière minute au parc.
J'ai dit 93, c'est pas 93, je crois c'est 95.
Je suis fâché avec les dates.
Coupe des coupes à Bruxelles.
Avec Fernandez.
Ouais.
But Ben Gotti.
Contre le Rapide de Vienne, non?
C'est ça.
L'attaquant qui était très grand, là.
L'attaquant
du Rapide de Vienne.
Ah, ça, je sais pas.
Oula. Quelle heure il s'appelait?
On a du mal déjà à se souvenir des joueurs du PSG.
Djorkaeff, Daniel Bravo.
Oui, tous ces types-là. Mais moi, ceux qui m'ont marqué, c'est ça. Alors, bien sûr, il y a eu Ibrahimovic et tout ce que vous voulez.
C'était la saison 95-96. On l'a dit en régie. Très bien. En 2012, vous écoutiez. À Adèle avec la BO de James Bond. Ça, c'est pour le film ou pour Adèle que vous
c'est
avez
C'est pour le film. C'est James Bond, c'est, moi, je peux aller voir n'importe quel James Bond, bon ou pas bon, je me régale.
C'est quand même pas les mêmes. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, mais même, Craig, c'est pas les mêmes.
C'est le fait que ce soit un James Bond. Je les ai tous adorés.
Vous avez même pas un comédien préféré dans le rôle?
Si, Sean Connery, bien évidemment. Mais même aujourd'hui.
Non, pas toi.
Moi, Daniel Craig, il a marqué des points récemment, Casino. Mais d'une force, parce que Casino dans les Royal. Scénarios aussi, il est moins stéréotypé. Le fait qu'il puisse tomber amoureux, qu'il soit un peu plus fragile.
Non, mais ça, c'est pas lui, ça. C'est un comédien qui, on lui donne un scénar, il le joue.
Oui, je sais, mais ça veut dire que ça va avec l'évolution du personnage. Je trouve que Sean Connery ou Roger Moore, à l'époque, c'était hyper stéréotypé, c'est marrant. Mais de mon point de vue, à mon âge.
Il y avait un petit truc british.
Ouais, mais je trouve ça un peu beau, je trouve ça mal vieilli.
Je trouve que James Bond, c'est le seul film que vous pouvez aller voir avec des trucs, des ficelles, mais des trucs énormes où vous dites, mais c'est pas possible. Et vous plongez, vous tombez dedans sans vous poser la question en vous disant le scénariste il avait fumé la moquette. Ouais, ça peut être n'importe quoi.
Mais rien pour la première scène.
Mais rien pour le générique. Ouais, déjà, pour le générique.
Ouais, la musique. Tout.
Et donc cette musique d'Adèle était. Mais toutes les musiques des James Bond sont extraordinaires. Ouais.
On vous retrouve à l'affiche de La Vérité si je mens, Michel.
Oui, à l'affiche, oui, j'ai fait 30 secondes dans une scène, effectivement. J'ai joué un médecin, je jouais le médecin d'Enrico Macias. Et il y avait une scène avec José Garcia. Ouais. Et je me souviens très bien parce que d'abord, c'est très flippant.
Ça devait être fou, ça.
Ouais, c'est très flippant. Et puis surtout, moi, je voulais faire le médecin pied noir qui en rajoute et tout, qui se la pète. Et au contraire, Thomas Gilou m'a dit non, alors t'es gentil, mais il y a José Garcia. Et Enrico Macias, donc tu me le fais hyper soft. Donc j'étais très frustré en fait.
Ouais, mais c'était la première expérience de grande envergure.
Oui, avec un grand moment de solitude et sentiment d'imposture, c'est le jour où on m'a demandé de venir à la première au Rex, où je me suis retrouvé sur scène avec tous les acteurs de La Vérité, alors que j'avais fait 30 secondes. Mais comme je faisais de la télé, on m'avait demandé d'être là.
Il y avait votre copain, Bruno Solo ?
Il y avait Bruno Solo, pas dans la scène.
Dans le film.
Dans La Vérité 3 ?
Est-ce qu'il était à 3 ? Je sais plus ça.
J'en sais rien, mais c'est sûrement, non ?
Bah, je sais pas.
Il a fait les trois films.
C'est votre ami, c'est pas le mien.
Non, bon, il sera content de le savoir.
Je l'embrasse. En 2014, vous écoutiez Pharrell Williams. Ça aussi, c'est pour la bande originale du film ou
non, c'est juste parce que je suis c'est pour illustrer le fait que je suis un
grand danseur,
un optimiste,
bonne vanne,
un optimiste indécrottable.
C'est vrai.
Voilà, je suis toujours heureux.
Le matin, vous réveillez toujours de bonne humeur.
Et je trouve cette chanson, elle s'appelle La Pipe, et elle est hyper entraînante. C'est la joie.
Elle s'appelle Happy. C'est vrai qu'il a enchaîné puis juste après Happy, ce qui a donné La Pipe. Mais c'était Happy.
Donc en fait, c'est toi qui y as pensé.
Non, tu m'as regardé. Tu m'as regardé.
Je te regarde
problème.
Toujours.
Tu étais en train de dormir, tu t'es réveillé.
Pas du tout.
C'est Happy, forcément, c'est la bande originale.
Mais c'est ça. Où j'ai fait. Combien de temps j'ai fait ici d'ailleurs ?
7 ans.
Deux ans de chronique à un moment il fallait que je parte parce que on m'avait proposé autre chose ailleurs, mais je suis pas allé au bout de ce que j'aurais aimé faire et je reviendrai volontiers. J'ai plein d'idées maintenant.
Très bien.
Mais à votre place, Nagui.
Volontiers. C'est le résumé de votre vie. Vous voulez toujours être à ma place.
Toujours à la place. Avec vous au départ et puis ensuite à votre place.
On rappelle le classement.
Tout le monde veut prendre sa place.
On a bien des sujets.
Mais c'est aussi l'année de la vanne de trop.
La vanne de trop.
Ouais, la vanne de trop, la bande dessinée que vous avez écrite avec Sébastien Mao.
On m'a écrite.
Oui, avec non, cette bande dessinée.
C'est pas moi, c'est les gens qui sont venus en disant on a une idée. Comme vous faites des vannes, on peut imaginer que vous faites la vanne de trop et que vous êtes viré de la télé, que vous êtes obligé de reprendre votre boulot de médecin. Et c'est le pitch de la bande dessinée. Mais c'est pas moi.
C'est quand même dingue de se retrouver personnage de bande dessinée.
Ah oui, c'était. Moi j'aurais dit, mais vous êtes fou, et personne va s'intéresser à ça. Ben si, ils en ont fait un deuxième numéro sur l'anatomie et tout.
Toujours avec vous.
Toujours avec moi. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, je dois être vendeur. Hein.
En 2018, Michel, vous écoutiez. Rapidement compris que c'est évidemment la Coupe du Monde qui était marquante.
On l'a vécu ensemble avec vous, Nagui et Leïla, mais c'était des moments extraordinaires. D'abord, c'est la première fois que j'allais assister à des matchs de Coupe du Monde. Et je parle
même
pas.
Mais même en 98 en France, vous n'êtes allé voir aucun match?
Non, j'étais pas allé voir de match parce que je bossais à ce moment-là. Non, je regardais à la télé, mais j'avais pas pu. Et là, la finale en 2018, j'étais, comme je faisais une croisière en bateau, je me suis arrêté dans un port italien et j'étais dans un bar où tout le monde regardait la finale et tous les Italiens
étaient pour la Croatie.
Bah oui. Tous les Italiens, et moi, je me suis mis debout pour chanter la Marseillaise parce que j'en avais marre, j'ai provoqué un peu. Et au moment où la Croatie marque un but, tout le monde, ils étaient comme des dingues, surtout que les Français gagnent pas. Et à la fin, j'aurais pas fait un doigt parce que je voulais pas me faire casser la gueule, mais j'étais tellement heureux. Oui, mais non, mais j'étais très énervé parce que il y avait quand même.
Il était un crapaud depuis 11h du matin.
Il y avait 80 Italiens autour de moi qui me regardaient quand la Croatie a marqué en hurlant. Donc au bout d'un moment, ça m'a énervé un peu. surtout les Italiens.
Et que j'adore, mais. Et 2018, ça marque aussi la fin de votre collaboration avec le magazine de la santé.
Mais oui c'est fou, ça.
C'est fou. 20 ans. J'avais fait 20 ans d'émission, 20 ans de co-présentation.
Non, mais d'accord, mais c'était une deuxième famille pour vous.
Oui, mais il y a un moment, il faut changer. Il y a un moment,
c'était pas un déchirement.
Je prenais plus beaucoup de plaisir à le faire et qu'à la télé, quand vous avez plus de plaisir à présenter une émission, ça se voit. Et puis il faut partir. Et j'avais.
Et puis il y avait le projet de ça ne sortira pas d'ici.
Il y avait le projet de ça ne sortira pas. Il y avait
Qui
devait s'appeler un suppôt et au lit. C'est pour ça que je finis toujours l'émission avec ça, puisque France Télévisions n'a pas souhaité que cette émission. Enfin, quelqu'un, France Télévisions n'a pas souhaité, qui a dû avoir des traumatismes avec un suppositoire, n'a pas souhaité que cette émission s'appelle comme ça. Donc effectivement cette émission, j'ai bien fait d'ailleurs de la commencer parce qu'elle cartonne.
Et laissez Marina, parce que j'imagine que vous êtes encore producteur, donc vous avez toujours un contact avec elle, mais vous formiez quand même une sorte de couple cathodique qui est important.
Oui, ça a été. On a fait ça progressivement. Hein, ouais. J'avais décidé 2 ans avant d'arrêter cette période, et puis on a fait progressivement, on a fait venir des gens, et puis bien évidemment que c'était compliqué de laisser Marina, mais l'émission marche très très bien aujourd'hui, il n'y a aucun
toujours,
souci.
Comme quoi vous servez à rien finalement.
Comme quoi ça rend humble. Ouais. Ouais. On se dit quand je vais partir, il n'y aura plus rien. Mais...
Farah Kessri est vétérinaire et journaliste. Bonjour Farah, merci de nous rejoindre. Vous êtes chroniqueuse donc au sein de cette émission, le magazine de la santé sur France 5. Vous êtes co-auteur de Même pas bête avec Michel Simès. On se demandait tout à l'heure avec Albert quel était l'animal dont on était le plus proche de tous les animaux.
Par rapport à la biologie ou par rapport au comportement?
Aux cinq sens.
Alors, aux cinq sens, de toute façon, ça va être les primates, les grands singes, on partage avec eux 98% de notre patrimoine génétique. Donc, ça va être vraiment
l'ADN. On est vraiment là.
On est vraiment très proche des grands singes, donc notamment les bonobos et les chimpanzés. Et le plus éloigné, on pourrait penser qu'on est très, très, très éloigné d'un insecte. Mais il faut savoir que juste avec une mouche, on partage quand même 70% de notre patrimoine génétique. C'est pour ça que la mouche drosophile,
on fait des études
sur
Alzheimer,
sujet de mes recherches. Donc
pour Alzheimer, justement, pour la mémoire.
Vous avez un parallèle. Pas mal de recherches sur les animaux. Vous avez sur les cancers notamment, les chiens, vous avez les rongeurs. On étudie énormément les pathologies qui existent déjà chez les animaux, qui sont similaires, les maladies. Les chiens font des insuffisances cardiaques, ils ont du diabète. Les chats font beaucoup d'insuffisances rénales, etc. Donc, c'est vraiment assez proche.
Vous êtes vétérinaire, il y a toujours ce même ce souci, en plus avec la protection animale, le respect de la vie, le souci de se dire, est-ce que l'on peut ou pas faire des expériences sur des animaux? Quel est votre point de vue?
Alors, C'est une question.
Parce que là, vous avez évoqué des animaux en disant ils ont ces maladies où ils sont proches, où on est proche, et donc évidemment il y a des tests en laboratoire. C'est un énorme débat qui fait couler beaucoup d'encre, parce que on est toujours partagé entre le respect que l'on doit avoir de la souffrance animale et des animaux, et de l'autre côté,
si on peut soigner son fils d'une maladie,
c'est très délicat, sauver des enfants. C'est une question qui est très délicate. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des chercheurs, ils ont à cœur de soulager de plus en plus la souffrance animale. D'ailleurs, dans les protocoles de recherche, qui n'existaient pas dans les années 50 et tout, ça n'existait pas. Avant, on pouvait faire n'importe quelle expérience sur n'importe quel animal.
D'accord.
Maintenant, ce n'est plus possible. Il y a un comité d'éthique. Il faut prouver la raison pour laquelle on utilise vraiment un animal. On y a recours quand dans la dernière étape. On passe par des cellules, par des modèles biologiques, on passe par différents stades avant d'aller utiliser des animaux. Parce que malheureusement, jusqu'à présent, on ne peut pas remplacer la machinerie très complexe d'un organisme. Donc voilà, après, on est très sensible.
Et on a besoin quand même d'un organisme pour faire les tests.
Moment,
on ne peut pas faire des tests sans...
Au stade, oui. En stade pour les maladies. Maintenant, pour la cosmétique, on pourrait largement s'en passer.
Ouais, mais c'est ce qu'on fait d'ailleurs.
C'est ce qu'on fait.
Il y a la peau artificielle. Enfin, on arrive à cultiver de la peau à partir de cellules.
Absolument.
C'est une vraie peau qu'on arrive à faire pousser. J'ai visité récemment le centre de recherche d'une grande entreprise de cosméto. Ils font les tests, notamment pour le soleil, les effets sur le cancer de la peau, sur la vraie peau humaine, mais qui a été cultivée.
On a réduit de 70% l'utilisation des animaux dans les expériences. Et j'espère qu'on arrivera à zéro. Mais ça, c'est pas encore.
Mais c'est pas au détriment des produits.
Ne réponds pas, Farah. Ne réponds pas.
Il y a les moitiés sérieux.
Je suis totalement sérieux.
Mais heureusement, il y a les produits vegan en cosméto. Il y a pas mal de médicaments aussi qui se passe totalement de l'utilisation de l'expérimentation animale. À titre personnel, la souffrance animale, c'est vraiment une cause que je défends. Et que ça soit pour le bien-être dans les élevages, on peut aussi se poser la question. On n'a pas besoin d'avoir dans notre assiette un steak qui provient d'un animal qui a souffert, qui a vécu dans des élevages intensifs.
Qui n'a jamais vu la lumière du soleil.
Absolument,
ne dites pas ça à Nagui.
Moi, je suis pas végétarienne, mais...
Non, mais lui, oui. Il mange des graines parce qu'il pense que les graines, ça leur fait pas mal.
Ne souffre pas.
Très, très bon.
Farah, on a compris qu'on était très proche des bonobos, des grands singes.
Mais aussi des mouches.
Et des mouches. On est le plus éloigné de quel animal? Celui vraiment où il y a des milliards de kilomètres?
Ah, il n'y en a pas.
On est proche de tous les animaux.
On est proche de tous les animaux parce que de toute façon, on est issu à l'origine des cellules. La première forme de vie, elle est cellulaire. Tout découle de là. L'être humain n'arrive dans la chaîne de l'évolution qu'il y a à peu près 2 millions d'années. On est vraiment les derniers de la chaîne de l'évolution. On a tous un patrimoine commun. On est tous liés.
Le problème, c'est qu'on est au sommet de cette chaîne.
Ça, c'est dans la mentalité des humains.
Non, en termes de prédateurs.
Ça, c'est culturel. Ouais.
Oui, mais on est prédateurs. notre pire prédateur aussi.
On se tue entre nous, mais sinon, il n'y a aucun animal, entre guillemets, au-dessus dans la chaîne alimentaire.
C'était pas le cas avant.
Oui, c'est ça.
C'était pas le cas avant. On a fait en sorte que notre mode notre civilisation a fait en sorte de détruire les habitats et d'inverser un peu le rôle.
Michel.
Oui, ce que disait Farah tout à l'heure sur le patrimoine génétique, les chimpanzés, on a quoi, 98%, voire même 99% de gènes en commun. Ça prouve une chose, et c'est la grande révolution médicale aujourd'hui, c'est l'épigénétique. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la génétique elle-même. C'est-à-dire que on a nos gènes qui font ce qu'on est, mais on pense que 70% de ce qu'on est aujourd'hui peut provenir des gènes, voire plus, mais c'est le reste qui fait qu'on va exprimer tel gène ou tel gène qu'on va mettre sur on ou sur off.
C'est le reste.
C'est l'environnement.
L'environnement, c'est-à-dire que les gènes vont se mettre sur off ou vont se mettre sur on en fonction de ce que vous allez vivre dans votre éducation, ce que vous allez manger, l'activité physique. Exactement. Et c'est ce qui fait que même si on a 99% de gènes communs aux singes, on a une expression des gènes qui vont faire ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes Nagui et vous n'êtes pas un singe, parce que ces gènes, certains se sont mis sur off et d'autres sur on en fonction de ce que vous avez
vécu. Est-ce que ça veut dire que le corps humain, l'être humain, évolue aussi, se transforme, se modifie? Là, ce que j'avais lu une fois, est-ce que c'est vrai que les pouces deviennent de plus en plus longs parce que les téléphones portables
font qu'on se sert du pouce? Il y a plus de maladies.
Non, mais il est impossible. Il est impossible. Alors que le téléphone portable est là depuis seulement quoi, 15 ans? Qu'il y a déjà eu une évolution anatomique liée à une modification des gènes sur la longueur du pouce.
Parce que ça prend des millions d'années.
Conneries. D'accord. Mais oui, okay. Parce que on ne peut pas faire ça en quelques années.
En quelques clics.
Ben voilà, en revanche, que l'homme s'adapte à son environnement, et puisqu'on parle des sens, il est évident que notre audition et notre odorat ont changé en fonction de nos besoins.
On entend parler quand même de générations où, par exemple, on a pris X centimètres, ou
on mange mieux.
Et reprenez l'exemple du pouce. La longueur du pouce ne va pas se modifier comme ça en si peu de temps. En revanche, la zone du cerveau responsable de la dextérité du pouce, ouais, elle, va se développer.
Prend des informations.
Parce que les neurones vont se connecter entre eux, puisque vous vous servez de plus en plus de votre pouce pour taper des textos.
Est-ce qu'il y a beaucoup de comportements inexpliqués chez les animaux? Ou est-ce qu'on sait tout?
Non, on ne sait pas tout, et heureusement. D'ailleurs, on n'a pas exploré toutes les espèces animales en fonction de leur écosystème. Dans les océans, on a exploré à peine 5%. Vous imaginez encore toutes les espèces qu'on va découvrir. Il y a des phénomènes qui sont un peu inexpliqués. C'est plutôt, on ne sait toujours pas comment les animaux vont pouvoir sentir, deviner qu'il va y avoir une catastrophe naturelle. Ça, on ne sait pas.
Il
y a eu un peu près.
Pardon,
les grenouilles, c'est ça qui peuvent avertir un tremblement de terre.
Il y a les oiseaux et les serpents. En fait, on voit à chaque fois, il y a des observations. Il y a eu 180 études.
Quand un chien est capable de détecter une crise d'épilepsie avant qu'elle n'arrive.
Ça, c'est autre chose.
C'est génial.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour les catastrophes climatiques. On ne sait pas. Mais par rapport aux maladies, ça, on le sait. Ça, c'est étudié. On sait aussi qu'ils sont capables de détecter, de repérer quand une personne a un cancer, parce que les cellules cancéreuses libèrent des molécules odorantes qui vont être perçues par la super-olfaction du chien. Ça, c'est testé. C'est sur le cancer de la prostate, le cancer du sein, sur les mélanomes. Il y a aussi des études qui sont faites actuellement sur la maladie d'Alzheimer.
Je me demandais ce que le chien devait aller renifler pour deviner qui est là.
Alors, pour la prostate, c'est les urines. Pour le cancer du sein, ça va être la sueur. Pour le cancer du poumon, ça va être l'haleine.
D'accord, c'est incroyable, incroyable. Et pardon, je vous ai interrompu sur l'Alzheimer.
Sur l'Alzheimer, en fait, c'est des études en cours sur les lamas et les camélidés, donc tout ce qui est chameau et dromadaire. Ils ont des anticorps qui ont cette capacité à traverser ce qu'on appelle une barrière hématocéphalique. C'est simplement qu'ils peuvent rentrer dans le cerveau et aller détecter la cause de la maladie d'Alzheimer, qui est en fait la formation de plaques qui vont venir sur les neurones, sur les axones, ce qu'on appelle c'est comme les fils électriques.
C'était une histoire de on arrêtait de sécréter
c'est la formation de plaques amyloïdes.
Absolument, c'est des grosses protéines qui viennent et en fait qui bougent la conduction. C'est comme si la transmission d'énergie de flux nerveux ne passait plus d'une cellule à l'autre. Et là, apparemment, les camélidés, les lamas auraient une molécule qui nous permettrait justement de faire un diagnostic précoce de la maladie, parce que les traitements actuels sont inefficaces parce que le diagnostic arrive beaucoup trop tardivement.
C'est passionnant, vous l'avez compris. Farah Kessri est co-auteur avec Michel Simet, vous avez surtout compris que c'était elle qui avait fait la majorité du travail.
Enfin, je m'y attendais pas du tout.
Ça s'appelle même pas bête.
Vous comprenez pourquoi il est animateur préféré des Français maintenant? Il écrase tous les autres.
C'est chez Glénat Jeunesse. Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter encore un sextoy, mais révolutionnaire.
Oui, alors je ne l'ai pas là, bien sûr, dommage, parce que l'émission aurait pu être très très sympa. En fait, c'est un sextoy pouvant contenir les cendres d'un défunt que vous aimiez. Comme votre mari ou votre chien, si vous aviez un rapport particulier à l'animal. Bref, même mort, vous pourrez procurer du plaisir à votre moitié, et c'est ça qui est chouette.
C'est moche, on en reparle après Info de Midi. La bande originale avec Léa Gallo-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Alexis Le Rossignol, Tanguy Passureau.
Bonjour.
Et notre invité, Michel Simès.
Bonjour.
Que signe avec Farah Kessri. Même pas bête, les cinq sens, comparons l'homme et l'animal. Et on a compris, même s'il y a énormément de différences, nous sommes extrêmement proches quand même les uns des autres, avec des sens plus ou moins développés. Et même, on pourrait être jaloux de certains animaux sur les qualités. Et toi aussi, Albert.
Ah oui.
C'est vrai, quand tu découvres des qualités de certains animaux, tu dis... Mais...
Il y a un caméléon nain, sa langue, quand il l'attire, c'est 90 km/h pour choper une mouche.
D'accord. Ouais. Ah, et puis la longueur de la langue chez la girafe qui mesure 55 cm ou un truc comme ça pour pouvoir aller chercher
bleu noir, quoi. Ouais, c'est la langue noire.
Et il y a même un
lézard qui a une langue bleue.
Ouais, pour faire peur aux prédateurs.
Le tilikois.
Alors que pardon,
c'est le tilikois.
Incroyable.
C'est un lézard qui a une langue toute bleue. C'est pour en fait envoyer un message d'alerte
à Michou.
Ça pourrait, mais en fait, c'est plutôt aux aigles. Son prédateur, c'est un aigle. Et de très, très loin, l'aigle peut repérer la langue bleue du tilikois et se dire « Ah bah tiens, bah non, je vais pas aller attaquer ce lézard, il me fait une peur bleue. »
Oui, puis et parce qu'il réfléchit aussi les UV, les ultraviolets. Ouais,
c'est incroyable.
Et moi, j'ai découvert l'existence de l'umami, c'est ça ?
C'est l'umami. L'umami, c'est un sens. Alors, effectivement, vous savez que sur la langue, on a le sucré, le salé, l'acide et l'amer.
Oui, mais d'ailleurs, vous dites qu'il y a des animaux qui sont plus sensibles au sucre et d'autres pas
le
du tout.
Le lion est insensible au sucre.
C'est ça.
Ouais. Le cheval, par exemple, adore le sucre.
Ouais. Le chat est un félin, donc il n'aime pas du tout le sucre. C'est le chien qui adore le sucre. Et en fait, c'est parce que tout simplement, au niveau de la langue, il n'a pas du tout de papille gustative capable de détecter le sucré. Donc, ça ne sert à rien de donner des sucreries au chat. Il n'aimera pas, parce que c'est un carnivore strict. Alors que le chien, c'est vrai.
Et le cheval.
Et le cheval, il adore ça. Et ça peut être
maintenant. La mouche aussi.
C'est le moment de rappeler que d'abord, le sucre est vraiment très mauvais.
Bah, vous savez, on a besoin
pour le corps humain et que le froid vient enlever justement notre capacité à détecter le sucre sur la langue, d'où les vendeurs de soda qui écrivent dessus servir très frais parce que plus
c'est froid et moins on sent que c'est sucré.
Plus un coca est froid, moins tu te rendras compte qu'il est sucré et plus tu en boiras. Et
il faut rappeler qu'on a besoin de 25 grammes de sucre par jour. C'est pas
fou,
beaucoup,
ça.
Regardez ce qu'il faut. Tout sucre confondu, tout ce que vous mangez, les fruits, tout. Ouais, 25 grammes, ça fait 6 cuillères à café de sucre, et vous voyez qu'on dépasse largement tout ça.
Combien de grammes ?
Pardon ?
Un coca, il y a 7 morceaux de sucre par canette.
Ouais. C'est une catastrophe.
Mais ils sont fondus quand même.
Juste pour revenir à l'umami, en revanche, c'est la protéine. Ça, c'est les aliments qui sont riches en protéines.
C'est la cinquième saveur ressentie par la langue. On a découvert ça assez récemment.
Que nous, on ne ressent plus. Le bébé le ressent.
Le bébé le ressent parce qu'il y a beaucoup d'umami dans le lait maternel. Mais effectivement, c'est un truc qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, qu'on avait cette cinquième saveur.
Pourquoi ce nom japonais?
Ça veut dire savoureux en japonais.
Mais c'est eux qui l'ont découvert.
C'est eux qui l'ont découvert.
D'accord. Même pas bête, les cinq sens, c'est chez Glénat Jeunesse et c'est absolument passionnant. Amélie Fallière en signe les dessins, les croquis. Elle vous croque plutôt bien d'ailleurs, Michel.
C'est sympa, il y a un petit avatar.
C'est une photo.
Ouais.
C'est pas une photo parce que il est brun dans la bande dessinée.
Sur la couverture.
Farah Kessri.
Vous savez, je suis près de la retraite, vous le répétez suffisamment souvent, Nagui.
Je suis beau.
Enfin.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous voulez me donner une idée pour des cadeaux de Noël, c'est ça ?
Bah oui, Nagui, d'autant que vos proches vous ont déjà vous, donc c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, ça.
Choupinou.
Oui, je sais que je vous dis jamais de choses comme ça, mais c'est l'esprit de Noël. J'ai envie de vous faire plaisir. D'autant qu'un compliment, c'est pas cher par rapport à un cadeau. Et vous n'allez pas le vendre sur le bon coin comme un crevard. Allez, j'ai quand même une idée de cadeau pour vous. Le sextoy contenant des cendres de défunts. Alors ça existe vraiment. Alors le souci avec vous, Nagui, c'est que vous êtes vivant. Donc si vous offrez ça à une dame qui vous adore, ça va être vide. Et il faudrait un sextoy de bonne taille pour pouvoir vous mettre vous vivant en entier dedans et ça ferait mal à la personne. D'autant que pour vous ce serait pas drôle, ce serait comme de revivre votre naissance mais 15 fois sur 2 minutes. Mais quand vous serez mort, un jour où vous aurez pris du rab à la cantine de Radio France, celle qui partage votre vie pourra vous incinérer. L'incinération c'est une sorte de barbecue où vous vous êtes la viande et rangez votre cendre, vos cendres dans son sextoy. C'est important de donner du plaisir au-delà de la mort parce que la mort est un acte égoïste. Moi, petit, j'avais un grand-oncle avec qui je devais aller au parc Walibi le 12 mars. Il est mort le 11. Ben, il nous a laissé en plan ce pourri et on n'y est pas allé. Alors, j'ai tenté un truc. Hein. J'ai dit, grand-tonton aurait aimé qu'on fasse le grand 8. Allez, en sa mémoire, on va attraper un schtroumpf en peluche avec les pinces. Mais rien à faire, ça a été annulé. Parce que le défunt n'est pas dans le partage. Ce n'est pas une belle personne. Regardez Pompidou. Il nous a laissé en plein mois d'avril avant même de sortir un disque de Zouk pour qu'on passe un bon été. Moi, je suis hanté par une question, celle de la vie après la mort. Certains disent qu'on monte au ciel. C'est la seule fois où Ryanair va pas nous saigner parce que notre valise est trop lourde. Il faut en profiter. Et ils se racontent que de là-haut, on voit les vivants. Hein, c'est-à-dire que là, en audience cumulée dans l'absolu, j'ai les vivants plus les morts. Hein, les mecs ont voté Jean Tiberi pendant des années. Ils peuvent bien écouter Pastureau. Or, si on meurt, qu'on se retrouve au-dessus des nuages, là où même Evelyne Delia viendra pas nous embêter, et qu'on voit en bas sa moitié se taper les trois quarts du Kama Sutra avec un autre, il y a de quoi péter un câble. Parce que tous ces discours-là, si un jour je disparais, je souhaite que tu retrouves le bonheur qu'on dit à l'autre, on lui dit ça juste parce qu'on a la patate, un petit 37-6, hein, et qu'on n'imagine pas quitter ce monde comme l'ont fait avant nous Grocouic, Henri IV ou Vincent Van Gogh, hein, qui est mort en deux bouts. D'abord l'oreille, ensuite le reste. Hein, dans sa tombe, il y a un cercueil, il y a une petite boîte où normalement on range le shit. Mais en réalité, personne ne souhaite que l'autre soit heureux quand on a clamé, parce qu'on a de l'orgueil. Donc une société s'est dit, le meilleur moyen que le défunt soit pas remplacé, c'est qu'il continue à envoyer sa loot au 7e ciel, et ils ont lancé 21 grammes. Alors 21 grammes, c'est un sextoy en verre soufflé transparent, dans lequel se trouve une urne miniature avec les cendres du mari. Je dis mari parce qu'on peut le faire avec celle de son père, mais au moment de s'en servir, on risque de ressentir des sentiments mitigés.
Non. Pourquoi ce nom de 21 grammes ?
Eh bien, Leïla le sait, par exemple, puisqu'elle sait tout. Hein. C'est pour ça que je discute rarement avec Leïla, ça me rabaisse. Hein, je préfère me parler à moi-même. Selon la légende, l'âme pèserait 21 grammes. Mais c'est une moyenne. Hein. L'âme d'Adolf Hitler, je crois, était très légère. Et d'autres sont plus lourdes. Une Miss France qui a une belle âme peut peser jusqu'à 90 kilos, ce qui la disqualifie du concours. Parce qu'on ne garde que les filles ayant le même physique que Sylvie Tellier. C'est pour ça que tout le monde attend la reprise du concours par François Hollande, afin que les règles s'assouplissent. Bref, le sextoy 21 grammes, vous rangez dedans votre homme sous forme de cendre, vous lui dites « Ok, t'es plus là bébé, mais je sens qu'on va quand même faire gouzou-gouzou dans le clic-clac » et c'est parti. Alors, à noter que 21 grammes est en fait un coffret. En plus du sextoy, il y a aussi un diffuseur de parfum qui émet l'odeur de l'être aimé. Alors, ça n'a pas été compliqué à faire parce qu'on sent tous pareil. À 8h, le dop à la fraise, à midi, le dop à la fraise plus son odeur naturelle, et à partir de 17h, plus du tout le dop à la fraise. C'est pourquoi je recommande de ne pas avoir d'interaction sociale après 9h30 le matin. Hein, ou alors d'en avoir à partir de 20h si vous détestez la fraise. Hein, je pense à ces gens de Plougastel qui ont quitté la commune à cause de leur amour exclusif pour d'autres fruits, hein, la cerise, l'abricot ou la date pour les islamo-gauchistes. Donc concrètement, la mort c'est fini parce qu'on peut se faire plaisir avec les cendres du défunt. Cendres, défunt en plus qu'on peut renifler. Et dans le coffret, il y a aussi une station d'accueil pour iPhone afin d'écouter la musique que vous écoutiez à deux. Alors si c'était un fan de Maître Gims, on peut en rester sur le sextoy, parce que si on force un peu avec, la douleur ressentie sera similaire. Alors attention, et je m'adresse au public ici en studio qui est très nombreux, oui, et qui se dit déjà sympa l'idée cadeau. J'ai bien fait de rester fidèle à Inter malgré la playlist de grève qui m'a bien bien gonflé. Eh bien, désillusion pour vous, hein, mais vous savez, la vie est une vaste désillusion. Le sextoy 21 grammes, vous ne pourrez pas vous en servir. Pourquoi ? Parce que conserver les cendres d'un défunt à domicile est interdit en France. Vous pouvez leur réserver une chambre à l'Ibis de Mont-de-Marsan, hein, mais c'est tout. Votre sextoy sera donc vide, mais si vous aviez un mari un peu transparent, ça fera la blague.
Merci. Tanguy Bastion. La bande originale.
Sur France Inter. Et autre idée cadeau, c'est retrouver Tanguy le 31 janvier au théâtre municipal de Colmar. Tu vois, c'est plus simple.
Allez, des questions concernant la culture en ce moment. Et Michel, vous pouvez essayer de répondre. Farah aussi, si ça vous amuse. Qui va
J'aime
être
bien
la
culture, vous pouvez essayer de répondre, Michel. Je sais que vous n'y arriverez pas, mais non. Essayons.
À moi, vous connaissez. Non, ce sont des informations précises.
Oui, non, mais ça m'étonne
qui
pas.
Sera la nouvelle consultante sport de France Télévisions?
Céline Giraud.
Ah, c'est la judokate qui est au chômage.
Qui n'avait pas de
exactement.
Travail.
Ouais.
Ça ne nous donne pas son nom.
Non, mais je ne l'ai pas.
Émilie Andéol, absolument, qui a la championne olympique, qui sera consultante judo à France Télévisions à l'occasion des JO. Une jeune femme de 32 ans qui bénéficie d'aide personnalisée de la Fédération française de judo et qui, en effet, était...
Ouais, c'est terrible. Elle a donné toute sa vie au sport et puis c'est des sports qui gagnent pas, enfin voilà, où il n'y a pas beaucoup de sous. C'est...
Clairement. Mais elle le savait en commençant sa carrière.
Ouais, hein. Fallait mieux choisir. Hein.
Bah, oh, voilà.
Pourquoi la chanteuse Lorde vient de repousser la sortie, la publication de son dernier album ?
Parce qu'elle a honte.
Parce qu'elle veut refaire quelque chose dessus.
Elle a cassé la voix de grève.
Farah, vous avez une idée ou pas ?
Non, pas du tout.
Non ?
Pas du tout, désolé.
Quel est le nom de cette chanteuse ?
Lorde.
Lorde.
Si, elle avait fait un... Tu l'as pas le tube de Lorde ? C'était vachement bien.
J'aime bien Nagui d'un seul coup. C'est... Non, tu l'as pas, envoie-le enfin.
Si, non, mais ils peuvent préparer l'émission un peu.
C'est une anglaise.
C'est une américaine, mais c'est ouais. Elle avait fait. C'était le tube avec les tasques et les gobelets qui se retournaient. Non, mais tous les gamins faisaient ça.
Ah oui, absolument. Ouais, ah, oui. Très bien.
Bon, enfin bref.
Le bon tour.
Bon, pourquoi elle vous. Il y a une question. Quoi.
Pourquoi ouais. Oui, merci.
Pourquoi non, elle chante à propos de quelqu'un qui est mort.
Imagine,
donc faut le refaire.
Imagine une star qui va sortir un album et l'album est prêt et elle repousse l'album. Pour quelle raison?
Elle l'annule pas.
Parce qu'il y en a un autre qui sort en même temps.
Non.
Il a raison. Humaine. Il est sorti sur Internet.
Elle est en prison. Non.
Elle est déprimée.
Elle
est en dépression.
Quelqu'un. Attends, Lorde, vas-y. Joue Lorde. C'est celle qui faisait ce succès. Énorme succès.
Là-bas. Parce que son producteur est mort.
Alors, c'est à cause d'une mort, mais c'est pas son
mère. Sa famille.
Farah.
Son chien.
Mais
son
oui
son quand vous dites Farah, moi j'ai chien direct.
Ouais, non.
Mais oui.
Non.
Mais oui. Mais c'est non.
Elle a retardé son album parce que son chien était mort.
Son chien est mort.
Ouais, c'est un deuil.
Elle est exactement. Elle est tellement triste qu'elle ne veut pas avoir la joie, le bonheur de sortir son album. C'est joli. C'est joli. Vous avez déjà, pas pour des raisons aussi tristes, mais pour des raisons personnelles, repoussé
la sortie d'album.
Des engagements professionnels.
Jamais. Le travail
d'abord. Vous cloisonnez ?
Le travail. Ah oui, moi je cloisonne complètement. J'arrive à. J'ai vécu il n'y a pas longtemps là, puisque j'ai eu un petit accident de quelqu'un de proche et il fallait que je fasse une conférence. J'arrive à cloisonner complètement. Je passe d'un truc à l'autre et après je reviens.
Pourquoi les producteurs de Star Wars viennent de vivre un cauchemar ?
Parce qu'ils ont peur que le 9e volet soit dévoilé.
Parce qu'il y a un livre qui vient de sortir par celui qui portait le masque de.
Qui raconte des coulisses.
Ils ont tous perdu leur chien en même temps.
Non.
JJ Abraham.
Mais c'est une sorte d'écriture.
Ça a fuité.
Allez, ouais, d'accord. Le scénario du dernier épisode s'est retrouvé en vente sur eBay.
Mais non.
T'imagines la panique.
En même temps, sans voir les images de Star Wars, c'est un peu...
Non, mais ok, d'accord. Donc, le réalisateur J.J. Abrams a révélé comment le scénario du film s'est retrouvé en vente sur eBay. L'un des acteurs a laissé le scénario sur son lit et une personne venant faire le ménage chez lui est tombée dessus. L'a pris et l'a mis en vente sur eBay. Ils ont réussi à mettre la main dessus avant qu'il ne soit vendu. Mais c'est la panique totale parce qu'il y a un scoop. Est-ce que vous êtes fan de Star Wars ? Est-ce que vous attendez ?
Pas du tout. Alors, je vais vous dire, j'ai acheté le. Parce que, à force d'en entendre parler, j'avais jamais vu un seul film.
Ouais.
J'ai acheté la collection.
Le coffret ?
Le coffret. Ouais. J'ai essayé de le regarder avec le premier.
Dans quel ordre ?
Bah, dans l'ordre, je sais plus ce que j'ai fait. Et le plus vieux. J'ai commencé par le plus vieux, le premier.
Qui est sorti.
Donc le 3. 3, 4, 5 et après 1, 2,
3. Je me suis emmerdé au bout d'une demi-heure.
4, 5, 6 et après 1, 2, 3.
J'ai arrêté au bout d'une demi-heure, ça me plaisait pas du tout.
Ah, carrément.
Voilà. Je suis comme ça.
D'accord. Mais c'est des films à voir au ciné, sur grand écran, c'est pas du tout des films à voir chez soi. Hein.
Sur son téléphone. Mais même. Je trouve que les premiers épisodes a mal vieilli quand même.
Oui.
Bah tiens, à propos de mal vieillir, voici Daniel Morin.
Chien galeux, mince alors. Pas du tout dans l'esprit de Noël.
Mais si.
Mais quelle connerie.
Toi-même.
Mais non, pas toi. Mais quelle connerie, faire venir un docteur dans l'émission avant de partir en vacances, c'est totalement idiot. C'était après.
C'est pour bien,
faire
c'est venir pour bien Michel. Finir. C'est pour bien finir l'année.
Le faire venir après, histoire qu'il puisse nous ausculter, qu'il puisse rassurer Tanguy Pasturo et ses démangeaisons multiples depuis son retour de vacances de Bombay, vacances culturelles passées dans un squat indien où chaque année se réunit l'amicale des lépreux et l'association des amis du psoriasis, qu'il puisse prévenir Leïla que
Pour le moment, c'est pas grave cette dilatation des sinus. Mais que ce serait bien de ralentir un peu sur le popper. Bon, Nagui le connaît très bien. Comme d'hab, il lui enverra par la poste début janvier une dose de pénicilline. Et puis, basta, il ira mieux tout de suite, le taulier. Alors, n'allez pas croire que je ne suis pas content de vous avoir et de vous voir, cher docteur. Je suis enchanté, mais je suis encore plus enchanté qu'on reçoive le docteur Farah Kessri, absolument une vétérinaire. Alors non, Nagui, c'est pas pour moi. Je sais que mon cas est désespéré. Toute forme de médecine est incapable de résoudre mes problèmes. La dernière fois que j'ai vu un praticien, il m'a dit que vu mon état physique, c'était un miracle que je sois toujours en vie.
C'est clair.
Que normalement, vu l'état de mes organes vitaux, je devrais être mort depuis les années 90. Non.
Cérébral.
Docteur Kessri, on a besoin de vous pour Alexis le Rossignol. Pourquoi ne pas
Rossignol, Véto.
Non, mais non, c'est pour autre chose, Pourquoi ne pas l'emmener chez un docteur comme Michel? Bonne question, docteur, bonne question. Mais sachez qu'on a essayé. On a essayé, d'après les tests pratiqués sur lui, Alexis n'est pas humain. Alexis appartiendrait bel et bien au monde animal. Bref, vous tombez à pied.
Comme nous tous.
Non, mais lui encore plus. Hein. Depuis le début du conflit social à Radio France, Alexis est inquiet, il a peur du manque à gagner. Les symptômes inquiétants, très inquiétants, se multiplient. Il est vraiment pas bien, vous avez entendu sa chronique, premier signe. En plus, alors je vous le dis, il a la truffe chaude. Il refuse quasiment de manger. Le matin, quand je le sors, il met des heures pour faire sa crotte. Et quand il l'a fait, il hurle à la mort. C'est hyper gênant. Il réagit même plus quand Albert Algo lui grimpe dessus. Il se laisse faire. Du coup, c'est un carnage. Hein. Albert en profite salement. Il le grimpe parfois jusqu'à 20 fois par jour. D'ailleurs, si vous aviez le matériel, ce serait bien de castrer Albert.
Un petit thermomètre, ouais.
Non, mais castrer Albert, ça le calmerait. Ça rendrait le cauchemar du pauvre Alexis beaucoup moins pénible. Bon, voilà, je sais que ça se fait pas de demander des faveurs aux invités. Mais là, on est dans une espèce
urgence.
D'urgence. Ouais, complètement, complètement. Nagui. Alors s'il vous plaît, même si Alexis ne l'est pas, vous soyez humain. Allez, bonnes vacances à vous.
Merci Daniel Mort.
Couchez.
Avec Nagui.
Farah, je profite de votre présence à cette table. Idée reçue, l'histoire de la truffe pour le chien.
Ah oui.
Bonne
oui.
Et mauvaise santé, c'est totalement faux.
Ah, il faut absolument pas. Non. Si c'est la truffe par rapport à l'odorat, c'est ça?
Non, par rapport à la température, il est.
Ah oui, par rapport à la température, non, bien sûr. Il faut c'est... absolument pas. C'est pas
si,
du
si
tout.
Si elle est chaude,
sensible.
Il est malade. Si elle est froide, il est en forme.
Façon...
Si elle est chaude, faut pas couper la truffe.
Non.
C'est,
non,
pas,
non,
c'est pas comme le front.
C'est
quoi.
Pour prendre la température d'un animal, c'est vraiment le thermomètre au niveau rectal. Il y a rien d'autre à faire.
Vous connaissez Alexis, désolé.
C'est ça,
Michel.
Non, vous prenez la température au niveau des oreilles. Ou bien vous touchez la truffe, c'est pas assez sensible.
Ça ne veut rien dire.
C'est pas assez sensible.
Vous connaissez la différence entre un gynéco myope et un jeune chiot? Aucune. Ils ont tous les deux le nez humide.
Oui. C'est Noël.
Ça,
c'est
ça se passait bien jusque-là,
voilà.
Farah.
Voilà.
On n'avait pas complètement honte de Michel, parce que c'est la problématique
non,
avec Michel.
Hein,
c'est, même, oui, je sais aussi. Oui.
Ça ne sortira pas d'ici sur
oui.
France 2. Succès de ce rendez-vous, de ce talk. Vous y prenez du plaisir.
Je m'éclate parce que d'abord ça me fait sortir un petit peu de la médecine pure, même si ça reste un cabinet de consultation virtuelle et que j'arrive à tirer sur le fil quand les invités arrivent à me dire des choses, ce qui se passe. Il se passe quelque chose de très bizarre dans
vous
cette émission.
Vous vous comportez sur le plateau comme dans le cabinet.
Exactement. Et je pense que c'est, et je le fais inconsciemment, c'est-à-dire que quand je suis face à un patient dans le colloque singulier d'une consultation,
vous le regardez dans
je
les
le
yeux.
Regarde dans les yeux, je l'écoute, et quand il y a des symptômes ou des choses qu'il me dit qui sont intéressantes pour mon diagnostic, je fais. Et là, en fait, j'ai l'impression que mes invités, et vous pouvez me le dire parce que vous étiez un de mes invités,
Je l'ai vécu comme ça, ouais.
On finit par oublier que c'est une émission de télé.
Ouais.
Et je crois que mes invités se disent, il est médecin, et puis hop, je finis par commencer à dire des choses que je raconte pas forcément en public, et il s'instaure une conversation.
On a clairement envie de vous dire sincèrement. De répondre sincèrement aux questions. Mais je sais pas si c'est le regard, si c'est l'écoute, si c'est l'empathie, mais en tout cas, ça fonctionne.
C'est-à-dire que j'ai l'empathie d'un médecin, parce que c'est quand même le mot essentiel et la qualité essentielle pour un médecin. Et puis, le fait de regarder les gens, je fais comme en consultation. Je suis pas le nez sur mon ordinateur pendant que les gens me parlent et prendre des notes.
Comme moi maintenant. vous êtes toujours sur RTL, je tiens à le préciser. Ça va beaucoup mieux à 8h15, donc, et vous animez tous les dimanches à 9h15. Ça va beaucoup mieux. Vous supervisez Dr Good, qui est le magazine de la santé bimestriel, et vous avez joué le vétérinaire sur France 3.
Et
vous êtes ambassadeur santé pour les Jeux Olympiques.
Oui, de Paris 2024. Et d'ici à 2024, je peux vous assurer qu'on va faire bouger les Français qui sont sédentaires et c'est une catastrophe sanitaire.
Très bien. Les cinq sens, Leïla, tu as aimé cette, cette bande dessinée, pardon, mais c'est vrai que ça se feuillette, ça se lit comme, comme un bon Titeuf, un bon Zep. Il y a des vannes aussi, il y a des choses drôles et on apprend des tonnes de trucs.
Et je suis toujours fascinée. Bah, y a des anecdotes, j'ai parlé du phoque à capuchon, j'ai parlé de la capacité, la flaveur, la notion de flaveur, odeur et saveur, le fait d'associer ces deux sens, de pas pouvoir reconnaître finalement un aliment qu'on va goûter en fermant les yeux et en ayant le nez bouché, de voir un peu comment fonctionne le corps humain. Et puis, ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'apprendre des choses sur le règne animal et ça m'a fait penser, voilà, à l'école. Et moi, c'est toujours un très bon souvenir de penser à l'école. Donc, voilà.
Et de rappeler, comme l'a dit Farah tout à l'heure, nous sommes des animaux. Ouais. On fait partie de la chaîne. Monde animal. Ouais. Daniel Morin, qu'est-ce que tu as?
Moi, je trouve que c'est une excellente idée de cadeau. Ça permet de se faire plaisir à soi en faisant semblant d'offrir quelque chose à son enfant.
Tanguy, Pastureau.
Bah, maintenant que je sais que moi aussi je suis un animal, je réalise que j'ai très envie de bouffer avec les doigts là et de me mettre à poil. Je sais pas ce qui se passe.
Alexis,
je n'ai pas d'enfant, alors il sera pour moi et c'est très bien.
Très bien. Albert,
moi aussi, enfin, l'avis de mes camarades, je les reprends. Puis grand respect pour le règne animal dont nous faisons partie. C'est extraordinaire.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Farah, que l'on dise de votre livre?
Ben, de dire que...
C'est vous qui avez tout fait.
Travailler avec Michel, c'est vraiment ce qui était complémentaire. C'est que Michel était en train de se poser la question quels étaient les points de différence, qu'est-ce qui faisait qu'on était des humains et pas des animaux. Eh bien, moi, c'était au contraire. C'était qu'est-ce que j'allais rechercher de points communs chez les autres animaux pour voir qu'on n'était pas si différents. Et on s'est rejoints tous les deux. Et c'est ça qui fait que le livre est intéressant, je pense... Pour ceux qui vont le lire.
Michel Simès, qu'aimeriez-vous entendre de la part de l'un de vos lecteurs?
Que c'est un super bouquin et qu'on en a acheté beaucoup et que ça nous rapporte beaucoup de pognon. Voilà.
Des excuses à présenter, bien sûr, Daniel.
Alors déjà, désolé pour la déontologie, l'honnêteté, les valeurs, quoi. On a encore pu voir ce matin l'escroquerie du docteur Simès qui ne connaissait rien au sujet, c'est-à-dire au livre du jour. Alors, il y a Balkany et juste en dessous, il y a Michel Simès. Que des amis de Nagui, en fait. Alors, désolé pour le docteur Michel Simès, j'ai eu l'ordre des médecins au téléphone à la pause, hein, et la retraite, c'est pas pour demain, comme ils sont blagueurs. Lors des médecins, ils t'ont trouvé un poste de proctologue en EHPAD au Mexique. Bonne carrière en perspective, et désolé encore Michel, parce que tu n'auras peut-être pas le temps d'arriver jusqu'au Mexique. À la pause, encore, j'ai eu au téléphone 80 Italiens, et ils cherchaient à te joindre. Et comme ils me paraissaient sympas, et surtout que je suis très lâche, je leur ai donné ton 06, ton digicode. Forza, camarade.
Merci. La semaine prochaine, rediffusion des meilleures émissions. Alice Dufour, Guillaume Tonquédex, Stéphane De Groot, Cyril Lignac, Roberto Alagna, les 40 ans des bronzés avec Patrice Lecomte. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Nous serons de retour en direct le 6 janvier avec Isabelle Carré. Merci beaucoup, Farah Kessri, d'être venu à ce micro. Merci, Michel.
Merci, monsieur Nagui.
Bonne année. Merci à tous. Vraiment, là, on dit aussi bonne fête et surtout bonne santé à toute la bande.
Buvez comme des trous.
Et passez. Et soyez prudents et revenez en forme. Et bonne journée sur Inter.
Bonnes vacances.